Europie.
Cruzăm eu tot Europa.
Răscrucea Europei.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe qui a posé ses micros cette semaine au Parlement européen à Strasbourg avec le lancement ce mercredi par le président français des grandes orientations de la présidence du Conseil de l'UE devant les parlementaires des 27 pays de l'Union. 6 mois pour quoi faire avec nous en studio. Pour en parler, 3 députés européens, une française, Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez au groupe centriste Renew, proche de la majorité. Vous avez été ministre en France chargé des affaires européennes entre 2017 et 2019. Avec nous également Andreas Schwab, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes allemand, vous appartenez au principal groupe représenté ici au Parlement, le groupe de droite PPE, le Parti Populaire Européen. Et enfin, Javier Moreno Sanchez, bonjour.
Buenas tardes.
Vous êtes espagnol, on l'entend, du groupe socialiste et démocrate. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation.
Nos générations ont aujourd'hui à refonder notre Europe pour faire face à ses promesses de démocratie vivante, de progrès et de paix. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour revenir sur nos grands textes fondamentaux qui ont pourtant été décidés souverainement par les États membres lors de leur adhésion. Face à ce retour du tragique dans l'histoire, l'Europe doit s'armer, non pas par défiance vis-à-vis des autres puissances, non, mais pour assurer son indépendance dans ce monde de violence, pour ne pas subir le choix des autres. Nos sociétés ont ceci de singulier qu'elles ont inventé avec l'État-providence un système de protection pour chacun face au risque de l'existence. C'est un legs de nos démocraties européennes. Et cette pandémie a montré que la solidarité, loin d'être une faiblesse, est une force incomparable.
Extrait très pro-européen d'un président devant un hémicycle embarqué dans des débats très nationaux, électoraux, électriques. Je me tourne tout d'abord vers vous, Nathalie Loiseau. Les ambitions du président français sont immenses pour 6 mois, alors que cette présidence tournante du Conseil de l'UE a vu ses pouvoirs quand même pas mal rabotés avec les derniers traités. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce que va pouvoir amener la France pendant ces 6 prochains mois?
Les attentes vis-à-vis de cette présidence tournante sont fortes aussi, parce que les défis sont élevés, qu'il s'agisse du défi climatique, qu'il s'agisse du défi numérique, du défi de la convergence sociale dans notre Union européenne. Les ignorer, ne pas y répondre, c'est risquer de mal protéger les Européens. Donc que ça arrive à ce moment-ci est important, être au rendez-vous est nécessaire. Le président ou la France ne feront pas tout seul, bien évidemment. Au sein du Conseil, il y a, j'espère, un vrai sentiment d'urgence sur tous ces éléments. Au sein du Parlement européen, les 3 principaux groupes politiques, le PPE, les sociaux-démocrates et nous, Renew Europe, avons décidé à ce moment important de la mi-mandat de nous mettre d'accord sur nos priorités politiques pour ne pas décevoir ceux qui ont cru en nous.
Andreas Schwab, ça tombe plutôt bien. Il y a une nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne, très européenne, même pro-fédérale. Est-ce qu'on assiste à un moment européen, finalement?
Alors, moi, je pense que c'était plus favorable à la présidence française de continuer avec l'ancien gouvernement en Allemagne, qui était bien établi et préparé à soutenir. Et il faut maintenant essayer de en faire le maximum. Et je pense que Macron a été très carré pour présenter ses propos. Et c'était très utile et aussi très modéré. Et ça a aidé au débat.
Mais il va y avoir plus que jamais une belle coopération franco-allemande?
Je l'espère et je suis convaincu. Et c'est aussi nécessaire, et Nathalie vient de le dire, la présidence d'un pays, aujourd'hui, ce n'est plus que pour 6 mois, on ne parle qu'avec Macron et pas avec les autres. C'est une communauté des 27 et la France a maintenant la tâche de faire en sorte qu'on travaille bien ensemble.
Et vous, Javier Moreno-Sanchez, comment vous regardez le lancement de cette présidence française? C'est bien ou c'est un petit peu arrogance française?
Ah non, moi je pense que l'ambition est quelque chose de très positif, surtout en ce moment. Je vous rappelle qu'on est en train de sortir d'une pandémie, qu'on a fait une révolution en mettant de l'argent ensemble pour relancer l'économie de nos pays. Et donc des présidents ou des chanceliers qui sont européens et européistes, je pense qu'ils peuvent faire un grand boulot. Vous vous souvenez, on disait toujours que les Britanniques étaient un peu le frein à main quand on voulait avancer dans l'Union européenne. Je pense que cette crise nous donne l'opportunité de vraiment avancer. Il faut qu'on démontre aux citoyens que l'Europe existe, qu'elle leur apporte tous les jours quelque chose. Et je pense que l'exemple de la gestion des vaccins, comme on l'a fait, moi, je n'ose pas imaginer si on n'avait pas l'Union européenne, on serait peut-être en guerre. Peut-être j'exagère, mais on serait pas bien.
Alors, que va-t-on pouvoir vraiment faire pendant les 6 mois de présidence française qui vont être rabotés à un gros 3 mois en raison de la campagne pour la présidentielle et le devoir de réserve qui va impacter l'agenda européen? Que peut-on faire de manière réaliste, sachant que le temps législatif européen est un temps long? C'est le moment de faire un petit peu de pédagogie sur les institutions européennes. Je vous propose d'écouter cette chronique. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron sur la présidence française de l'Union européenne. Tout ce que va faire la France pour l'Europe, en seulement quelques mois, grâce à Paris, l'Europe va devenir pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Une puissance incontestable au même titre que les États-Unis ou la Chine. Ça va être tellement bien, la présidence française de l'Union européenne. Mais aussi compliqué, car pour faire évoluer les choses dans l'Union, ça prend du temps. Pour avoir une loi, par exemple, il faut que la Commission rédige une proposition. Ensuite, elle est discutée avec le Conseil et le Parlement. C'est ce qu'on appelle le trilogue.
If a draft agreement is reached at the trilogue,
si un projet d'accord est trouvé en trilogue, le Parlement le soumet à l'Assemblée plénière pour qu'il soit adopté. Ensuite, si les ministres du Conseil acceptent la position du Parlement, la proposition de loi est adoptée en première lecture. Si aucun accord n'est trouvé en première lecture, les discussions continuent en seconde lecture. Et s'il n'y a toujours pas d'accord, on met en place un comité de conciliation. S'il parvient à un accord, la proposition législative est adopté par le Conseil et le Parlement. Le texte est publié dans le journal officiel dans toutes les langues de l'Union européenne et devient une loi européenne.
Tout ça prend en moyenne 2 ans et demi. Ensuite, si c'est une directive, la loi doit être transcrite dans le droit national de chaque État membre. Environ 2 ans de plus. Les règlements, eux, s'appliquent directement. Pour résumer, ça n'est pas la présidence tournante, aussi volontariste soit-elle, qui va révolutionner la bureaucratie bruxelloise.
Tu connais, toi, la circulaire B65?
Attends, la circulaire B65?
Oui, concernant le laissez-passer A39.
Ah non, pas du tout. Tu vois, il faudrait se renseigner au bureau du contrôleur de coordination des archives à venir.
C'est au 5e étage, escalier Z, couloir U, je crois.
Pourtant, en temps de crise, l'Union européenne sait aussi réagir. Il y a des succès des institutions dont les peuples européens ont bénéficié. Prenons la pandémie. Depuis le 1er juillet, le certificat sanitaire européen permet de voyager dans tous les pays de l'Union européenne. Vu le chaos quelques mois plus tôt, ça n'était pas gagné. Il y avait des désaccords sur la gratuité des tests, sur les vaccins acceptés pour certifier l'immunité, mais les 27 sont parvenus, en 3 mois environ, à faciliter la mobilité des Européens. Autre réponse à la crise, le plan de relance. Là non plus, ça n'a pas été simple. Autrement dit, les États ont accepté la mutualisation de la dette. Alors il a fallu environ 1 an, mais c'est un sujet débattu depuis des années qui s'est enfin débloqué avec le Covid. Alors oui, les procédures européennes peuvent être kafkaïennes, mais elles permettent aussi de protéger les droits des Européens dans des délais loin d'être ridicules vu les enjeux.
On va parler justement d'une de ces législations qui n'est pas déconnectée des citoyens. Le texte a déjà été beaucoup discuté entre le Parlement et le Conseil et pourrait être adopté durant la présidence française. Il concerne le revenu minimum, un cadre de calcul pour un revenu décent partout en Europe. C'est important, Nathalie Loiseau, que l'Europe change son image. On l'a tellement assimilée aux questions de marché, de concurrence. Une Europe qui protège, une Europe plus sociale, même si c'est la compétence des États.
On voit bien aujourd'hui que l'Europe, pour être forte, ne peut pas continuer à vivre avec des États qui se font concurrence les uns aux autres. Et la pire des concurrences, c'est la concurrence sociale. C'est l'idée que dans certains États, les travailleurs seraient des travailleurs condamnés à être des travailleurs de deuxième classe, à n'être compétitifs que parce qu'ils sont mal payés. Ça, ça n'est pas la promesse européenne. Et donc, aujourd'hui, il est temps d'aller vers de la convergence sociale. Le sujet que vous avez passé, très pédagogique, sur comment on fait une loi européenne, pour faire simple, vous avez raison. Mais précisément, en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé à la présidence française, vous vous souvenez du discours de la Sorbonne, il avait mis en avant des objectifs. Nous sommes 2 ans et demi plus tard, à un moment de maturité de beaucoup de ces sujets, notamment sur le revenu minimum. C'est un sujet qui n'est pas simple. Il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup d'hésitations. Aujourd'hui, il y a l'engagement de la Commission avec un commissaire européen qui est très engagé. Il y a une discussion au Conseil qui avance bien. Il y a du côté du Parlement européen, mandat qui a été donné pour aller de l'avant. Et je crois que c'est vraiment le moment de dire aux Européens, vous avez tous le droit à un salaire minimum décent et on va s'en assurer.
Oui, justement, il y a eu des études d'Eurostat qui montrent que c'est dans l'Est de l'Europe que le décalage est le plus fort entre le revenu minimum et le coût de la vie. Exemple en Bulgarie où le salaire minimum est de 330 euros brut. Avec un tel salaire, on est un travailleur pauvre. Je vous propose d'écouter depuis Sofia les explications de Damien Vodenicharov.
650 levas bulgares, c'est le SMIC brut en Bulgarie, ce qui équivaut à 330 euros. Une fois les cotisations sociales soustraites, les salariés ne touchent que 250 euros net. On est bien loin du salaire moyen en Bulgarie qui est de près de 800 euros par mois. Et c'est donc tout à fait insuffisant pour s'en sortir au regard du coût de la vie. Plus d'un tiers des dépenses familiales sont liées à l'achat de nourriture, évalué à 230 euros par mois en 2020, soit 20 euros de moins que le salaire minimum. Plus de 20% des actifs sont rémunérés au salaire minimum dans le pays. Il y a donc beaucoup de travailleurs pauvres, mais aussi beaucoup de travail au noir, 20% de l'économie. Le travail sous-déclaré est très courant. Les employés reçoivent une partie de leur salaire en liquide et évitent ainsi de payer des cotisations. Ce qui arrange bien leurs employeurs aussi, qui économisent les dépenses liées aux prélèvements sociaux. Depuis 2012, le salaire minimum augmente en chaque début d'année. Il est ainsi passé de 135 euros il y a 10 ans à sa valeur actuelle de 325 euros brut. Cette année, cependant, les négociations avec le patronat se sont avérées difficiles, en pleine crise sanitaire, mais aussi avec une inflation officielle de plus de 7% sur un an. Finalement, le salaire minimum devrait augmenter de 30 euros à partir d'avril au plus tôt. Le patronat rechigne à dépenser plus, de peur de préserver sa compétitivité européenne et attirer les investissements étrangers grâce à la main-d'œuvre bon marché.
Javier Moreno-Sanchez, elle va dans la bonne direction cette proposition de revenu minimum, elle va assez loin ?
Tout à fait. En Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez, il y a un an, a instauré, on a voté ça au Parlement, le revenu minimum vital. Donc ça va encore plus loin. Donc il s'élève à peu près à 460 euros. Et il y a des conditions pour l'avoir. Mais objectivement, pour nous, c'est clair qu'il faut qu'on fasse ça au niveau européen. En revenant à ce que disait Nathalie, c'est vrai, ça prend du temps de faire les directives, mais c'est comme tout régime parlementaire. Il y a le système de navette entre le Sénat et la Chambre basse. Et ce qui fait la différence, et ce qui a fait la différence avec le vaccin et avec le pass sanitaire et le plan de relance, c'est que quand il y a la volonté politique de le faire, on accélère, on met le pied sur l'accélérateur.
Vous savez travailler vite quand il y a urgence.
Quand il y a urgence. Et moi, je suis vraiment très heureux qu'on ait eu cette réponse à cette pandémie. Parce que je vous rappelle qu'en 2008, je pense qu'on n'a pas pris les bonnes décisions et socialement, les gens ont énormément souffert. Donc cette fois, je pense qu'on a pris des leçons du passé. On a appuyé sur l'accélérateur et franchement, moi, j'ai travaillé sur le pass sanitaire. Hein. Et quand on a commencé, effectivement, je me disais, je ne sais pas comment on va y arriver. Mais il y a eu la volonté politique et on l'a fait.
On va revenir sur le revenu minimum, Andreas Schwab. Comment on voit ça depuis l'Allemagne, un pays qui a beaucoup d'industries, notamment automobiles, dans l'Est de l'Europe ?
Alors, si vous me permettez, je souhaiterais faire 3 points. Le premier, ça se réfère à l'intro. Alors, moi, je ne pense pas du tout... Et je dois vous admettre que je pense que j'ai une certaine expérience. l'Union européenne n'est pas du tout quelque chose de technocrate. Non.
Les gens sont beaucoup... qu'on essaie de montrer dans cette émission.
Oui, mais dans l'intro, on donnait un peu l'impression. Moi, je pense, avec tout le respect,
et j'ai elle fait est des critiquée stages, pour ça, en tout cas.
J'ai fait des stages à Paris, dans des ministères français, et aussi à Berlin, d'ailleurs. Dans les capitales, c'est beaucoup plus bureaucratique. Et les gens en Allemagne, en France, ne veulent pas s'en rendre compte, mais c'est la vérité. Alors ça, c'est important d'abord de dire que l'Europe n'est pas du tout technocrate. C'est le truc le plus facile pour parler à un socialiste et trouver un compromis et de faire une loi. Si on le veut, on peut faire tout.
Deuxièmement, mais elle est lente.
Deuxièmement, la mutualisation de la dette ne se fait pas. On a décidé cette fois-ci, et c'est la grande différence au passé, de faire des dettes européennes. Et maintenant, la convergence et le SMIC européen, c'est très difficile. À Paris, c'est très cher de vivre. En Auvergne, c'est moins cher. Donc, vous ne pouvez pas facilement dire que c'est le même SMIC. La même chose. Et donc, c'est très difficile de trouver
le juste
milieu.
Et ce sont des critères de calcul, comme vous le savez très bien.
Et là, je suis très positif que nos amis socialistes et qu'on a fait un grand pas en disant, OK, ce n'est pas quelque chose d'égal, mais il faut trouver l'ajustement concret.
Adéquate et décent. On dit les choses très clairement. Dans chaque pays, il doit y avoir un salaire minimum adéquat et décent. Le sujet que vous avez fait sur la Bulgarie est un très bon sujet. Il manque un point à ce qui a été décrit. C'est qu'en réalité, les travailleurs y votent avec leurs pieds. Qu'aujourd'hui, les pays de l'Est de l'Europe sont confrontés à un manque criant de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'ils investissent dans la formation, dans l'enseignement de leurs jeunes et que ces jeunes bien formés viennent à l'Ouest de l'Europe ensuite. Ce système n'a plus de sens. Et aujourd'hui, penser qu'on est compétitif parce qu'on ne coûte pas cher, il y aura toujours un pays à l'extérieur de l'Europe qui coûtera encore moins cher. Et ça n'est pas la promesse européenne. Donc aujourd'hui, un salaire minimum adéquat et décent dans chaque pays de l'Union européenne est une nécessité.
Et bien sûr, survient la question de la croissance et de ce fameux plan de 750 milliards d'euros. On parle aujourd'hui de grands plans d'investissement et de la nécessité de revoir les critères de Maastricht avec les 3% de déficit public. C'est quelque chose que le gouvernement allemand sera prêt à suivre, cette réforme du pacte de stabilité en Erasmus.
Je ne le crois pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des solutions à long terme. Et c'était la même chose pour le gouvernement d'avant. Donc, moi, je pense, mais je suis là sous contrôle des collègues, que plus que ça change, plus que ça reste la même chose. Le nouveau ministre libéral allemand veut se faire défenseur fort de la stabilité. Et donc, je pense qu'il va bloquer tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des compromis. Et donc, je pense que le point important là-dedans, comme je vous ai déjà dit, on ne veut pas, et c'était peut-être la faute avec le point de relance au niveau européen, car il fallait que ça aille très vite, on ne veut pas que le gouvernement espagnol décide, par exemple, car Javier est là, décide de faire croître un certain nombre de SMIC ou de trucs qui, en quelque sorte, sont européens avec des soutiens européens sur lesquels on a pris une dette commune. Sur ces questions, il faudrait que l'Europe co-décide au moins et contrôle plus. Et malheureusement, on n'y est pas arrivé.
Bah, c'est déjà le cas puisque ces investissements doivent aller vers le numérique ou vers l'environnement. C'est assez cadré.
Mais la liberté des États membres est énormément large.
Mais je pense que ça, c'est une des voies, comme dit Andreas, qu'on sorte du déficit les investissements pour la transition écologique et digitale. Je pense que c'est une voie qu'on peut explorer. Et si vraiment on veut faire ce pacte européen vert et vraiment prendre, combler de retard au niveau de la digitalisation, je pense qu'il faudra investir et il faut que ces investissements soient dehors du déficit parce que sinon, ça va être très compliqué.
Oui, justement, Nathalie Loiseau, quand on parle de souveraineté, on parle souvent défense politique étrangère, mais en fait, la question économique et la question de l'environnement, c'est aussi la souveraineté européenne. Comment elle s'impose face au monde ?
Aujourd'hui, on voit bien, et la crise du Covid nous a ouvert les yeux, que quand on parle autonomie stratégique ou souveraineté européenne, ça n'est pas simplement une question militaire, c'est une question industrielle, c'est une question technologique. Et je crois que beaucoup de mentalités ont évolué. Ces mots faisaient peur. Aujourd'hui, tout le monde comprend la nécessité d'être moins dépendant. Sur la question des critères de Maastricht, de la croissance, des investissements, de la dette, je crois qu'il faut agir sans dogmatisme. Maastricht, ce n'est pas une religion.
Non.
On n'est pas en train de réciter un catéchisme. Et en responsabilité, quel genre de dette on laisse aux générations futures ? On ne peut pas leur laisser la dette écologique. On sait très bien que si on n'agit pas maintenant, il sera trop tard. Mais on ne peut pas non plus leur laisser une dette financière insupportable. Ça signifie que les critères de Maastricht ne sont pas forcément les bons. Ou en tout cas qu'en matière d'investissement, il y a des choses urgentes à faire, à condition qu'on les décide ensemble. Pas de dette pour payer des salaires, ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'en matière de santé, nos États étaient suffisamment armés pour faire face à la pandémie ? La réponse est non. Et si on n'en a pas tiré les leçons, c'est qu'on n'a rien compris à ce qui s'est passé.
Des investissements dans la santé, dans l'environnement et le numérique. Andreas Schwab, je crois que vous travaillez pas mal sur deux directives très importantes, le Digital Market Act et le Digital Service Act. Est-ce que c'est via la norme que l'Europe peut s'imposer dans un monde aussi compétitif qu'est le numérique aujourd'hui ?
Alors, le ministre français Cédric On disait qu'il y a plusieurs conditions à ce que l'Europe peut devenir à nouveau compétitif dans le secteur du numérique. C'est non seulement l'investissement et la main-d'œuvre et donc la compétence, mais aussi le marché. Et c'est vrai, comme pour les salaires dont on a parlé, aussi pour le marché, il faut un cadre unique. Il faut qu'une jeune entreprise, une petite entreprise espagnole, peut immédiatement aller en France, sans plus de contrôle de santé ou de n'importe quoi, immédiatement vendre en ligne aussi en France et en Allemagne et aussi en Pologne. Et malheureusement, dans le passé, cette approche harmonisation maximale, marché commun mais sans barrière, c'était quelque chose qu'on a sous-estimé. Maintenant, avec les géants du numérique qui ont utilisé ça contre les citoyens européens, on a compris qu'il faut se armer en commun et on le fait.
Oui, l'Europe a été très bonne pour les normes avec la RGPD, mais ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, c'est un géant.
On ne peut pas les inventer, les géants, mais on peut créer les conditions, pour les faire croître.
Et quelles sont ces conditions, justement, pour les aider, peut-être Nathalie Loiseau ?
Il y a aujourd'hui, dans le paysage de l'Internet, des géants, les GAFA, qui ont pris une telle place qu'en quelque sorte, ils n'ont aucune des responsabilités des États, mais ils se comportent comme des États.
Exactement.
Ils fixent leurs propres règles et ils refusent que nous leur en fixions. C'est vrai à la fois sur la modération des contenus, sur la lutte contre la haine en ligne, contre la désinformation, contre les contenus illicites. Et c'est vrai en matière de concurrence, parce qu'aujourd'hui, pour émerger, pour créer un champion européen, les conditions de la concurrence ne sont pas respectées, parce qu'on appelle ça des gatekeepers. Les plateformes, finalement, contrôle et absorbe quiconque arrive sur le marché. Aujourd'hui, il faut absolument que l'Europe, c'est son rôle, c'est ce qui est attendu d'elle, même en dehors d'Europe, fixe un modèle sur les géants de l'Internet. Ni le Far West américain, où on voit que finalement, c'est quand même la loi du profit qui domine, aux dépens une certaine modération de l'espace public, ni l'hyper-contrôle chinois, où on se retrouve quelque part dans 1984 de George Orwell. Il y a avec ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire à la fois un projet de liberté individuelle, de liberté d'entreprendre et de souci de solidarité, nous avons un message à passer, nous avons un modèle à créer, et c'est le moment, entre le DSA et le DLMA, de le faire.
Une Europe qui s'impose aussi par ses valeurs, y compris dans le numérique. Carrefour de l'Europe depuis le Parlement européen à Strasbourg, avec trois parlementaires européens à nos côtés, Nathalie Loiseau, Javier Moreno-Sanchez et Andreas Schwab. Un des grands défis qui se pose à l'Europe aujourd'hui, c'est la question des migrations. Comment redonner une réponse européenne à des questions qui sont constamment renationalisées quand elles ne sont pas dévoyées ? Je vous propose d'écouter tout de suite ce point sur la situation en Pologne, à la frontière biélorusse. Il y a plusieurs semaines, le président biélorusse Alexandre Loukachenko instrumentalisait quelques milliers de migrants en les envoyant à la frontière polonaise pour déstabiliser l'Europe. Où en est-on aujourd'hui ? C'est ce que nous raconte depuis Varsovie notre correspondante Sarah Bakalouglou.
Pour l'association Groupe Agranitsa, la somme dépensée pour la construction du mur, soit environ 353 millions d'euros, devrait plutôt servir à mettre en place une politique migratoire qui aide et protège les migrants. La migration ne s'arrêtera pas avec un mur, met en garde le groupe de militants qui signale que les traversées de la frontière continuent actuellement, certes dans des proportions moins importantes que lors du pic de l'automne dernier. Selon les gardes-frontières polonais, 38 personnes ont tenté de franchir illégalement la frontière le 16 janvier par exemple. Des chiffres qui ne représentent pas toute la réalité des traversées, mais la route empruntée par les migrants est tout aussi dangereuse avec des températures extrêmes allant jusqu'à moins 20 degrés. Il y a quelques jours par exemple, des associations sont venues en aide à un groupe de 8 personnes originaires de Syrie, Yémen, Palestine et Égypte, découverts côté polonais dans la forêt. L'un d'entre eux, un jeune homme syrien d'environ 18 ans, était dans un état de fatigue extrême et en hypothermie. Emmené à l'hôpital, il a ensuite été ramené à la frontière avec la Biélorussie par les gardes frontières polonais, dénoncent les organisations. Groupe Agranitsa a indiqué avoir aidé depuis le 1er janvier 17 adolescents et enfants, le plus jeune étant âgé d'un an et demi seulement. De cette zone restreinte d'accès, des intimidations croissantes contre les militants, habitants et journalistes sont rapportées. Les journalistes peuvent se rendre à la frontière seulement lors d'un voyage de presse organisé par les autorités polonaises. Et côté ONG, il y a une semaine, Médecins sans frontières a annoncé retirer ses équipes envoyées en urgence il y a 3 mois dans la région. La raison, le refus répété des autorités polonaises de leur accorder l'accès malgré les besoins. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU s'est également vu refuser l'accès à la frontière lors de sa visite en Pologne début décembre.
Nathalie Loiseau, la France souhaiterait rediscuter de la réforme de l'asile en Europe. On sait que ça fait des années que le pacte asile et migration est bloqué. C'est un vaste programme qui, pour l'instant, s'est soldé par un échec, tant les attentes et les positions des différents pays membres sont opposées. Quand on dit protéger la frontière, ça veut dire quoi ?
Alors d'abord, quand on parle de ces sujets, on parle d'êtres humains. On ne parle pas de statistiques, on ne parle pas de mécanismes, on parle d'êtres humains qui vivent des tragédies, d'abord dans leur pays d'origine. Et la première manière de traiter de ce sujet, c'est de traiter les causes des migrations et des demandes d'asile. Sans quoi on labourera la mer, comme disait Simon Bolivar. Mmh. Ensuite, c'est un sujet extraordinairement compliqué, où il faut toujours agir avec humanité, mais aussi toujours agir en responsabilité. Les Européens veulent décider de qui vient sur leur sol. Et c'est légitime. Il y a à la fois l'accueil des réfugiés qui fuient les guerres, qui fuient les conflits, et c'est une obligation non seulement morale mais légale. Et puis ensuite, il y a ceux qui décident à notre place, les passeurs, qui sont des réseaux criminels, ou des États comme la Biélorussie du dictateur Loukachenko, qui décident à notre place, qui vient en Europe. Donc il faut réussir à traiter tout ça. On voit que c'est compliqué, on voit que depuis 2015, le pacte asile et migration est bloqué avec des divisions, des tensions énormes entre membres du Conseil. Moi, je l'ai vécu quand j'étais au gouvernement. Et je disais à l'époque quelque chose qui n'était pas du tout à la mode. Et je vois qu'aujourd'hui, la présidence française du Conseil de l'Union va le tenter. C'est de dire sortons de cette approche un peu idéologique qui est de dire on fait un paquet et c'est tout ou rien. Si on avait pu tout faire passer, ça aurait été formidable. 7 ans plus tard, c'est rien. Donc l'idée de la présidence française, c'est de découpler un certain nombre de sujets dans le paquet asile et migration, tout en veillant à chaque fois qu'on ait à la fois la solidarité et la responsabilité de manière équilibrée.
Et la première des choses, si j'ai bien compris, c'est de créer en fait une espèce de regard politique européen sur les frontières extérieures Schengen.
Ah bah, on sait très bien qu'on a créé Schengen en levant les barrières intérieures au sein de notre Union, et on a eu raison, et c'est un des trésors qu'il faut absolument préserver, et qu'on a mis en même temps du temps à vraiment traiter la question des frontières extérieures, et qu'on la traite de manière inégale. Et à partir de là, la promesse, elle n'est pas tout à fait tenue. Quand on est membre de Schengen, on bénéficie de la liberté de circulation, on en fait bénéficier les autres, mais on a une responsabilité, mais on ne peut pas la porter seul. Quand on est un pays qu'on appelle de première entrée de migration illégale, on doit évidemment être aidé par les autres.
Javier Moreno Sanchez, justement, vous êtes d'un pays, l'Espagne, qui est un pays de première entrée. C'est la bonne solution, ça, de remettre, je dirais, le paquet sur les frontières extérieures.
Alors,
tout d'abord,
la gestion de l'immigration est ce qu'on appelle en Espagne una asignatura pendiente, qui se traduirait, quand on est à l'université, on présente un examen, on le rate, on le remet sur l'année suivante et on n'a toujours pas passé cet examen. Moi, je suis fils d'immigrants, donc je travaille depuis que je suis né. Je suis comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que l'immigration, elle a lieu.
Elle a, oui.
Donc il faut avancer. Avancer et, comme disait Nathalie, mais il faut une approche holistique. C'est-à-dire, OK, il faut combattre les passeurs, s'attaquer aux causes et aux origines de l'immigration, mais il faut aussi favoriser l'immigration légale parce qu'on en a besoin de ces gens. Donc essayons de les aider à venir. Donc je pense qu'il faut vraiment une approche holistique et surtout ce qu'il faut, c'est de la solidarité. Et si on n'arrive pas à avoir un pacte, si on n'arrive pas à passer cet examen en entier, suivant l'esprit de la Valette, il y a plusieurs premiers ministres qui se réunissent, qu'ils avancent, qu'on avance au moins. Je comprends que peut-être en Pologne, ce n'est pas la même chose qu'on a en Espagne ou qu'en Suède, mais au moins qu'on puisse avancer par région et par thème.
Andreas Schwab, votre pays a accueilli en 2015 plus d'un million de migrants. Comment essayer de pousser cette solidarité? On voit que certains pays, notamment du groupe de Visegrad, ne veulent absolument pas accueillir de migrants sur leur sol.
C'est une question extrêmement difficile à résoudre et je trouve qu'il faut commencer avec le bon sens. Comme l'a été dit, ça doit être l'Europe qui décide qui vient. Et donc, comment le réaliser? Que toutes les frontières européennes soient traitées comme des frontières européennes. Pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas.
Oui, l'Europe veut regarder, veut avoir un regard plus politique sur la gestion des frontières extérieures et donc voir qui a le droit de rentrer, mais peut-être aussi contrôler la manière dont sont gérées ces frontières extérieures, notamment par des pays comme la Pologne, comme on l'a vu lors de la dernière crise. Le HCR s'inquiète de la violation des droits de l'homme aux frontières extérieures de l'UE, que ce soit en Pologne, mais aussi en Grèce.
Il faut évidemment avoir un regard très attentif. Et parmi les missions de Frontex, il y a aussi cette mission d'observation du respect des droits de l'homme. Nous n'allons pas nous déformer parce que à nos frontières, un dictateur belarusse se moque pas mal du sort des migrants. Lui, il les envoie dans le froid parce qu'il essaie de nous déstabiliser. Il ne faut pas qu'il y ait cette espèce de contagion de l'indécence morale. Ce qu'on constate avec la Pologne, et ce que je regrette, c'est que la Pologne a dit qu'elle était seule, mais elle a refusé l'aide qu'on pouvait lui apporter, précisément parce que cette aide était aussi assortie d'un regard sur la manière dont les choses se passaient. Et ça, c'est évidemment très discutable. Pour le reste, et je partage ce que disait Rabir tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à avancer tous ensemble, il y a aussi des coopérations entre États de bonne volonté. Mais si les États de Visegrad continuent à dire qu'ils ne veulent pas accueillir de migrants, ce qui est assez ambivalent parce qu'il y a peut-être un million d'Ukrainiens en Pologne par ailleurs, qu'ils aient au moins une autre forme de solidarité, qu'elle soit financière, qu'elle soit des équipements, des personnels. Mais ils ne peuvent pas dire « ça ne nous concerne pas ». Je pense que la Pologne aujourd'hui est obligée d'admettre que les questions des migrations, ça la concerne aussi.
Et cette question justement des migrations, elle ne se résout pas uniquement en interne, comme vous l'avez dit, et c'est tout l'objet du prochain sommet Europe-Afrique qui aura lieu le mois prochain.
À l'évidence, il faut agir en responsabilité. Il faut que notre aide vis-à-vis de ces pays soit une aide, pour le coup, holistique, intégrée, une aide au développement et une aide à la gouvernance et une aide à lutter contre l'insécurité. Pour aider ces pays vraiment, pour aider ces populations vraiment et pour qu'elles ne soient pas tentées de risquer leur vie en quittant leur pays parce qu'elles ne le font pas de gaieté de cœur. Donc nous, il faut qu'on soit meilleurs sur la cohérence de notre aide, mais il faut aussi que ces pays et leurs dirigeants agissent en responsabilité, ce que souvent ils n'ont pas fait. Ils ont souvent plutôt encouragé l'immigration de gens jeunes qui risquaient d'être des opposants, des dissidents qu'ils étaient assez heureux de voir partir ailleurs. Or, l'Afrique ne se développera pas si elle est saignée en permanence des gens les plus jeunes et les plus dynamiques qui partent ailleurs. C'est une fatalité qu'on ne peut pas imposer à l'Afrique.
Javier Moreno-Sanchez, vous vouliez réagir?
Oui, juste une petite chose. En revenant sur la première phrase de Nathalie, c'est des êtres humains. Et moi, j'ai beaucoup de relations avec le directeur de Frontex, avec Fabrice Leggeri. Et j'insiste, il me dit « oui, mais Frontex ne peut rien faire ». Je dis « oui, mais les États membres peuvent donner mandat à Frontex. Ça suffit de voir des gens mourir dans la Manche. aux Canaries, dans la Méditerranée. Tous les jours, ça apparaît. Et franchement, quand on partage les valeurs européennes, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, j'ai dit, mettez en place, en traitement, des protocoles européens quand il y a des gens qui sont en train de se noyer. Parce qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est les capitaines de bateaux qui les prennent. Et souvent, après, ils finissent en prison, les capitaines.
Parce il n'y a plus de moyens européens en Méditerranée pour sauver les migrants. Juste une chose.
Moi, j'ai eu l'occasion, Andreas, en 2015 ou 2016, d'aller en Allemagne, notamment à Berlin. Chapeau, parce que ce qui est, on parle très peu, parce que c'est une compétence nationale, mais ce qu'il faut, c'est qu'une fois que des migrants arrivent, il faut les intégrer. Et vous les avez intégrés, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple parce que j'étais dans les centres, ils sont intégrés dans le quartier, dans les écoles. Et si on les intègre depuis le début, bah c'est parfait pour la société et pour tout le monde, quoi.
On parle souveraineté européenne et autonomie stratégique à l'heure de la crise ukrainienne dans Carrefour de l'Europe. Alors, nous enregistrons cette émission. Quelques 100 000 soldats russes ont été postés à la frontière ukrainienne, sans parler du conflit gelé, mais toujours pas terminé dans le Donbass à l'est du pays. Une guerre qui oppose l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Jusqu'alors, l'Europe était au cœur des négociations, les accords de Minsk, puis les fameuses discussions entre Paris, Berlin, Kiev et Moscou, le fameux format Normandie. Mais depuis, l'Europe semble avoir beaucoup perdu la main au profit d'un dialogue entre Moscou et Washington. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense le jeune diplomate Jérémy Gallon. Il était récemment l'invité de l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris et c'est là que nous l'avons rencontré.
Le format de Normandie est effectivement aujourd'hui en mort cérébrale. Je crois que l'Europe, malheureusement, au cours des dernières années, n'a pas nécessairement, notamment sur le plan de la défense, fait les efforts nécessaires. Et donc, il est difficile d'avoir une stratégie de puissance sans force militaire. Deuxièmement, je pense qu'elle n'est pas vue comme un partenaire crédible parce que, justement, elle manque de cohérence, de vision stratégique, que ce soit par les Russes ou par d'autres puissances. Et donc, Vladimir Poutine considère que le futur de l'Ukraine dépend plus des États-Unis que de l'Europe. Et donc, il considère que l'interlocuteur crédible pour lui, c'est Washington. Cette crise ukrainienne, elle est simplement, comme bien d'autres crises, le symptôme de ce recul européen.
Alors comment faire? Comment redonner à l'Europe une voix, une force, une puissance peut-être?
Je crois que ça prendra du temps, mais il est nécessaire de s'appuyer sur plusieurs leviers. Un premier levier, c'est de faire un effort bien plus important en matière de défense, en matière de dépenses de défense. Ensuite, il y aura des mesures institutionnelles. Par exemple, pour gagner en efficacité, il faut passer en politique étrangère du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée. Et puis, ensuite, il faut bâtir une vision stratégique européenne. Mais ça nécessite également des hommes d'État qui aient une vision de long terme pour l'Europe.
Nathalie Loiseau, elle manque de vision d'une voix, cette Europe, sur la scène internationale?
Alors, d'abord, si l'Union européenne n'est pas présente dans les discussions, c'est parce que Vladimir Poutine n'en veut pas.
Tout à fait, parce qu'il trouve que l'Union européenne n'est pas crédible.
Parce que l'Union européenne, comme modèle, le dérange. Parce qu'il voudrait qu'elle ne soit pas crédible. Lui, il a un besoin de crédibilité. Lui, il est à la tête d'une puissance déclassée. La Russie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Union soviétique qu'il a connue. Et il ne s'en remet pas. Donc il trouve le moyen de retourner à la table avec les États-Unis. Il se fait croire qu'il est aussi puissant que les États-Unis. Et l'Union européenne est une puissance qui le dérange parce qu'elle réussit là où il échoue. Elle réussit dans la crise du vaccin, elle réussit économiquement, elle réussit socialement avec une démocratie. Donc il faut absolument, résolument, qu'il casse, qu'il dénigre l'Union européenne.
Certes, mais on voit bien que l'Union européenne n'arrive tout de même pas à s'inviter à la table.
Alors, l'Union européenne a sa part dans cette mise de côté. C'est-à-dire, et là je partage ce qui a été dit par ce jeune diplomate que je ne connais pas, quand on veut faire de la diplomatie, il faut la faire en ayant des munitions dans ses poches. Le soft power, en tant que soft power, je suis désolée, mais face au monde de carnivores dans lequel nous sommes, ça ne suffit pas. Donc une défense européenne, elle est urgente. Elle est urgente depuis le retrait américain d'Afghanistan. Parce que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, ce sont aussi des conséquences d'un geste américain qui a montré qu'ils ne voulaient plus avoir d'hommes sur le terrain dans des crises extérieures, loin de leurs intérêts vitaux. Une défense européenne, c'est là pour nous faire respecter nos valeurs, nos libertés, notre modèle de société. Pas pour défourailler dans tous les sens, pas pour être un acteur militaire, mais pour être un acteur crédible. Et puis, on parlait aussi diplomatie, parce que l'objectif dans cette crise, c'est évidemment la désescalade et un succès diplomatique. Alors, un, le format Normandie, il est encore un peu jeune, notre diplomate, il est remis sur le devant de la scène, et finalement, les Russes ont accepté qu'on le relance, et c'est une bonne chose. Mais deux, oui, bien sûr qu'il faut pouvoir décider à la majorité qualifiée plutôt qu'à l'unanimité en matière de politique étrangère dans l'Union européenne. Sinon, il suffit d'un État éventuellement manipulé par une puissance extérieure pour que nous ne fassions rien. Et c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Mais il faut aussi, sur la question de l'Ukraine, se demander qu'est-ce que l'Europe est capable de dire sur le plan diplomatique. Et sur le plan diplomatique, il y a un sujet, et je me tourne vers Andreas.
J'allais me tourner
c'est
vers
lui.
Puisque, en effet, le gazoduc qui relie directement la Russie à l'Allemagne, le Nord Stream 2, pèse-t-il dangereusement sur nos relations avec la Russie, puisque on est d'une certaine manière dépendant de la Russie en termes énergétiques de plus en plus? Oui, et terriblement.
C'est gentil que vous me faites maintenant spécialiste Nord Stream. Je ne suis pas du tout. J'ai voté contre plusieurs fois et je n'ai jamais vraiment été un grand amateur de ce projet. Mais il faut être conscient du fait qu'on est en ce moment qu'il faut faire face à Vladimir Poutine. Ce n'est pas la Russie, en quelque sorte. C'est difficile à séparer les choses. Mais l'idée derrière, l'idée politique derrière a toujours été il y a une vie après tout gouvernement, car les peuples restent. Mais je pense que finalement, le collègue de Javier, M. Scholz, le chancelier, il a pris un certain temps, c'est vrai, mais il a maintenant dit que s'il y a une agression, toute possibilité de mesure européenne est sur la table, y inclut la fermeture de cette pipeline.
Oui, d'ailleurs, il n'est toujours pas ouvert pour d'obscures raisons juridiques, ce pipeline, pour l'instant.
Ce n'est pas obscur, c'est du droit européen qu'il faut appliquer. Et apparemment, ils n'ont pas encore.
Voilà. Javier Moreno-Sanchez, elle a besoin d'une boussole, on dit toujours la boussole stratégique, en tout cas, de dire clairement quelles sont ses positions sur la scène internationale, quels sont les dangers, cette Europe. Elle ne l'a pas assez fait, elle ne l'a pas assez discuté.
Ça, c'est évident. Mais pour revenir sur la Russie, je crois que le président Macron hier a expliqué. Il faut maintenir le dialogue, mais je pense qu'à certains moments, il faut montrer les dents. Et quand on montre les dents, on a remarqué ce qui s'est passé avec l'Ukraine, les accords de Minsk et tout, là, ça les a beaucoup dérangés. Et quand on montre les dents, je crois que Poutine, c'est la seule manière de lui faire comprendre, c'est d'être vraiment, pas agressif, mais disons, de montrer qu'on ne se laisse pas faire. Sur la scène internationale, ce n'est pas seulement le problème de la politique étrangère, c'est de toutes les politiques. Il faut qu'on arrête avec cette unanimité, parce que, comme disait Nathalie, on va nulle part. L'Europe de la défense, autre asignatura pendiente, c'est la France qui l'avait lancée en 1954, bien avant, et qui l'a tué, enfin, l'Assemblée nationale.
Tout à fait, le retournement de l'histoire.
Mais je pense qu'effectivement, il faut qu'on aille vers maintenant, là, j'aime beaucoup ce mot boussole parce qu'en plus, c'est, ça innove et tout. Mais c'est clair que c'est encore une asignatura pendiente, encore un défi qu'il faut vraiment, qui revient constamment sur la table et on n'arrive pas à avancer. Il faut vraiment qu'il y ait la volonté politique. En fait, dès qu'on a la volonté politique en Europe, on est intouchable, que ce soit Poutine, que ce soit les Chinois, les Brésiliens ou les États-Unis. Quand on a la volonté politique et on est unis, on monte les dents et on est quand même la première puissance économique mondiale. Donc.
Avant de parler de défense, justement, vous disiez on est la première puissance économique. Est-ce qu'elle marche, cette politique de sanctions, finalement, notamment avec la Russie?
Alors, les sanctions, ce n'est pas une fin en soi. Oui. C'est un outil pour aboutir à quelque chose. Et parfois, je trouve notre Parlement un peu rapide à appeler à des sanctions pour tout et pour parfois n'importe quoi. Ce n'est pas un but en soi. Et le dialogue, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut rejeter. Emmanuel Macron l'a très bien expliqué avec la Russie. Les États-Unis parlent avec la Russie. On a reproché à Emmanuel Macron de vouloir parler à la Russie. On a reproché à Olaf Scholz de vouloir parler à la Russie. Résultat, c'est d'autres que nous qui parlent de la sécurité de l'Europe avec la Russie. Au cœur de la guerre froide, à la crise de Cuba, on a inventé quelque chose entre les États-Unis et l'Union soviétique qui s'appelait le téléphone rouge. Bien sûr qu'il faut parler à quelqu'un. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne se parle pas. C'est pire que tout. Donc sanctions, oui, c'est nécessaire. Parfois des vraies sanctions, des sanctions qui font vraiment mal. Moi, il y a un sujet sur lequel je nous trouve extraordinairement timide, mais c'est pas seulement l'Union européenne qui devrait le mettre en avant, mais aussi un pays comme le Royaume-Uni ou d'autres. C'est les biens mal acquis des oligarques russes dans nos pays. Si on veut vraiment devenir sérieux, les villas, les yachts, les avions privés, il y a de quoi faire.
Andreas Schwab.
Alors, il faut aussi aller un peu derrière en histoire. Alors moi, quand j'ai commencé ici en 2004, on avait encore un partenariat Union européenne avec la Russie. En 2007, car il y a l'unanimité au Conseil, on ne pouvait plus le faire, car il y avait un certain nombre de pays de l'Est qui ne voulaient plus faire ça. Et ça démontre, et on le voit aujourd'hui, je dirais, à cette table entre l'Espagne, la France et l'Allemagne, il y a plus ou moins un accord de 100% ce qu'il faut faire en politique étrangère. Ouais. Ouais. Peut-être il y a quelques-uns, mais en principe, on est d'accord. Ce n'était pas comme ça en 2004, d'ailleurs. Ça s'est beaucoup amélioré. Mais avec les pays de l'Est, malheureusement, on manque encore cette conviction commune.
Oui, tout à fait, sur les questions de politique étrangère, mais... Et plus particulièrement aussi sur les questions de défense, on voit bien qu'il y a des fractures immenses au sein du Parlement et entre les pays européens, entre ces pays de l'Est qui ne veulent pas dialoguer, par exemple, avec la Russie, ou les pays du Nord ou les pays baltes, par exemple, qui ne voient leur défense que sous le parapluie de l'OTAN et qui ont très peur d'une défense européenne qui pourrait venir affaiblir leur défense, pense-t-il en tout cas.
Ça a beaucoup changé. Là, pour le coup, je ne serais pas d'accord avec vous. Ça a beaucoup changé en quelques années parce que le monde va vite. L'effet du retrait américain d'Afghanistan et des conditions dans lesquelles ils se sont passés ont été un signal d'alarme pour beaucoup de pays européens. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que la défense européenne, elle n'est pas contradictoire avec l'OTAN. Elle ne va pas affaiblir l'OTAN. Au contraire, elle va renforcer l'OTAN. Le Fonds européen de défense, quand il a été adopté dans ce Parlement, il a été, moi j'étais aux côtés du rapporteur, qui était un rapporteur polonais du PiS, et qui était extrêmement favorable à ce fonds, et qui m'a dit « je comprends mieux aujourd'hui que dans le monde dangereux dans lequel nous vivons, on a besoin de plus d'Europe et de plus d'OTAN, et pas l'un contre l'autre ». Les États baltes, l'Estonie, elle est présente au Mali, dans la force Takuba, pendant que la France est présente dans les États baltes, sous commandement de l'OTAN. Cette idée qu'on a de plus en plus une culture stratégique partager une compréhension plus commune des menaces. C'est une réalité qui progresse et j'espère, j'ai été le rapporteur d'un rapport sur la politique de sécurité et de défense commune qui a été voté en commission largement, qui sera voté en plénière au mois de février, j'espère que sera voté largement aussi, qui est ambitieux sur la boussole stratégique et qui montre, parce qu'il a été voté, que ce que vous décrivez, c'est-à-dire des divisions et des incompréhensions, c'est en train de beaucoup changer.
On peut compter sur une Europe de la défense dans...
dans quelques années.
C'est une construction, c'est un processus, c'est brique à brique. Simplement, vous savez qu'on dit toujours, l'Europe progresse dans les crises.
Là, on en a une.
Et moi, je mets en garde... Parce qu'une vraie crise qui nous ferait vraiment progresser sur la défense européenne, ce serait une guerre sur notre continent. Et là, ce serait trop tard. Donc pour le coup, réparons notre toit. Tant qu'il fait beau, n'attendons pas qu'il pleuve.
L'esprit européen dans le carrefour de l'Europe sur toutes les réformes souhaitées, souhaitables ou réalisables durant les 6 mois de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Un grand merci à nos 3 invités, les eurodéputés Nathalie Loiseau, Andreas Schwab et Javier Moreno Sanchez pour leurs analyses pertinentes. Merci aussi à Ludivine Amado pour la réalisation, secondée par les excellents moyens techniques du Parlement européen à Strasbourg. On se retrouve dès la semaine prochaine pour parler du Brexit 1 an après.
7 milliards de voisins. Emmanuel